There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Labéry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Laure Clausier, journaliste et présentatrice, entre autres, du débat quotidien Le Chypre Neumann sur RMC et de Happy Boulot sur BFM Business. Pendant cet épisode, nous allons parler de son métier, de bien-être au travail, de sa vision, assez originale je dois dire, de l'après-pandémie, d'égalité femmes-hommes, de son caractère et de beaucoup d'autres choses. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Laure.
Bonjour Gaël.
Alors, comme d'habitude, je vais commencer par une rapide présentation, même si beaucoup de personnes vous connaissent déjà. Vous avez commencé votre carrière de journaliste, et ça je l'ai découvert, en tant que stagiaire en 2008 pour lemonde.fr, et vous êtes passé par plusieurs rédactions. Mais vous animez depuis 2020, du lundi au vendredi, le célèbre débat Neumann-Le Chypre, de midi à 15h sur RMC, ainsi que le célébrissime Happy Boulot Le Mag, même s'il n'est plus en quotidien, mais une fois par semaine, sur BFM Business, chaîne sur laquelle vous êtes arrivé en 2015. Alors, cher Laure, vous m'avez fait l'honneur de m'interviewer plusieurs fois, et je me suis dit qu'il serait intéressant d'avoir votre point de vue sur le bien-être au travail, qui est l'une des thématiques que vous traitez depuis des années, et par ailleurs, vous êtes la première journaliste que j'interviewe, donc le point de vue d'une journaliste m'intéresse énormément en tant que professionnelle. Alors ma première question est toute simple. Vous faites du direct, quotidiennement, du lundi au vendredi. Comment est-ce qu'on gère son bien-être? Comment on gère un coup de mou quand on est en direct? Vous êtes obligé d'être à l'antenne. Comment est-ce qu'on fait pour gérer son bien-être dans ces cas-là?
Ça, c'est très, très dur. Le direct, c'est ce qui est le plus difficile. C'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de question de bien-être. En fait, ça n'existe pas. Il faut être bien tout le temps, même si on est mal. C'est la partie théâtrale du direct. En fait, il faut mettre en scène son bien-être. Ça fait partie du travail, en fait. De ne pas exister, de ne pas faire montrer ses sentiments, ça fait partie du travail.
En fait, c'est une interdiction professionnelle. Si jamais vous avez un coup de mou, c'est impossible de le montrer à l'antenne, mais ça doit être certains jours plus dur que d'autres, non?
Ouais, il y a des jours, c'est pas facile. Après, y a, une fois qu'on est on air, c'est comme au théâtre, quoi. Il y a une espèce de moment comme ça où on se lance et puis ça dure. Bon, 3 heures, c'est long, mais ça ne dure qu'un temps. Après, on peut faire la tronche tranquille.
C'est ce que j'allais dire. 3 heures de direct tous les jours, c'est très long. Et si quelqu'un ne connaît pas encore les débats Neumann-Le Chypre, avec tout le respect que j'ai pour France Culture, on va dire que ce n'est pas vraiment le même rythme. C'est quand même très, très speed comme débat.
C'est sportif, oui. En fait, c'est comme un sport, en fait. C'est une course d'endurance. Il faut être très en forme, très réveillé. Et il y a une difficulté à RMC. C'est qu'avec les auditeurs, il faut toujours être très attentif à ce qu'ils disent, à leurs sentiments. Ils pourraient dire quelque chose qu'il faut reprendre. Parfois, ils vont bien, ils ne vont pas bien. Ça demande une attention très forte. Je suis un peu fatiguée après.
Ça, je le comprends bien volontiers. Alors, dans le cadre de Happy Boulot, vous avez rencontré énormément d'intervenants. On change un tout petit peu sujet, mais ça m'intéresse vraiment. Quelles sont les tendances qui vous ont, ou les choses qui vous ont vraiment étonné dernièrement? Vous vous êtes dit ça, waouh, quand même.
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la fin de la bienveillance. C'est-à-dire qu'en fait, on était bienveillant encore l'année dernière jusqu'au mois d'août. Et puis après, on a changé complètement de paradigme. Maintenant, il faut faire fonctionner la machine. On n'est plus là pour se dire « j'espère que tu vas bien et prenez soin de vous ». Et il y a eu vraiment, dans la crise sanitaire, deux étapes, quoi. L'étape où on prenait soin les uns des autres et que le principal, c'était d'aller bien. Et puis à partir de la rentrée de septembre, l'étape où en fait, faut un peu sauver sa place et sauver son job. Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce que c'est un peu brutal, quoi.
Et vous avez senti vraiment cette bascule? C'est intéressant parce que vous êtes la première qui me le dit de façon aussi claire. Vous pensez qu'on va revenir au monde d'avant, véritablement?
En tout cas, on ne va pas revenir au monde juste avant la crise sanitaire, qui était celui des baby-foot, des petits jus, il faut faire des salles où tout le monde discute ensemble, ça c'est terminé, quoi. Ne serait-ce que pour des raisons immobilières. C'est que là, les groupes vendent leur immobilier, se réorganisent, vendent le premier étage pour garder que le deuxième. Oui, on a changé de monde, hein.
Et dans une rédaction où justement vous avez dû être à l'antenne, comment s'est passée la pandémie? Comment ça gère dans une rédaction une pandémie comme celle-là? Alors je pense notamment au premier confinement, parce qu'après j'imagine que vous avez trouvé une routine qui a fait que ça fonctionne. Ça a dû être un sacré traumatisme pour du jour au lendemain passer à quelque chose de compatible avec une pandémie.
Bah, là, le problème dans une rédaction, c'est que tout dépend un peu du niveau de chacun en informatique et en agilité avec les outils. Le premier confinement, moi, j'ai tout fait de chez moi à la campagne, ça n'a posé aucun problème. Et le deuxième confinement, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire que la décision a été de dire tout le monde est à la rédaction, un point, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de télétravail. En fait, ils ont mis toutes les équipes marketing et tout ça, toutes les fonctions support en télétravail et tous les journalistes ici. Donc, ça s'est géré comme de rien n'était, en fait.
Et vous, cette pandémie, vous l'avez vécue comment à titre personnel? Est-ce que vous trouvez que ça a fait changer les choses vers du mieux? Alors, vous avez un peu répondu, mais de façon générale, mais pour vous, personnellement, dans votre métier de journaliste, est-ce que vous en tirez du bon, du neutre, pas grand-chose?
Ben, c'est-à-dire que ça a bouleversé tout le monde à titre personnel. Donc, le fait que tout le monde soit un peu à fleur de peau dans sa vie personnelle a un impact dans les rédactions comme dans n'importe quelle vie professionnelle. On a, comme tout le monde, énormément de gens qui sont absents pour des raisons, qui sont en arrêt maladie dans nos rédactions comme ailleurs. Les gens sont sensibles. Moi, je suis sensible, les autres le sont, tout le monde est un peu tendu, quoi. Et ça, c'est compliqué à gérer. Il y a même des fois où je me dis, tiens, vaudrait mieux que j'ai rendez-vous avec mon chef dans 2 jours parce que là, je suis trop tendu, quoi.
Ouais. Enfin, vous avez l'air d'être plutôt quelqu'un du genre qui s'exprime, si je puis me permettre.
Oui, c'est vrai, oui. Parfois, je le regrette.
Mais alors, justement, vous avez un côté... Alors, j'utilise à dessein cette expression parce que ça fait partie des grandes émissions de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Un côté grande gueule qui est très rafraîchissant, je trouve, dans le paysage actuel.
Non, mais ça me coûte cher. Hein. Quand je dis que ce n'est pas une qualité, c'est qu'il y a plein de fois où je regrette ce que j'ai dit, il y a plein de fois où j'ai été trop loin, il y a plein de fois où je pense plus que j'ai dit 3 minutes après l'avoir dit. Enfin, c'est pas... Et puis, dire la vérité aux gens, c'est... Enfin, parfois, j'ai vraiment l'impression d'avoir 5 ans. Quoi. C'est pas toujours une qualité. C'est-à-dire que ça a un côté comme ça, c'est sympa, tiens, c'est rafraîchissant, mais en fait, parfois, on ferait mieux de fermer sa bouche.
Vous êtes une impulsive qui essaye de soigner, alors?
Absolument, absolument. Mais j'ai un coach maintenant. Non, mais parce que je me mets au coaching comme tout le monde. Donc, du coup, j'essaye d'apprendre à être... plus sympa au travail, à essayer de comprendre les autres. Mais c'est très dur.
C'est dur, mais c'est génial. Vous savez, moi, pour parler de mon tout petit cas, à 30 ans, j'étais quelqu'un d'extrêmement nerveux. C'est-à-dire que je partais, mais au quart de tour en 2 secondes, et du jour au lendemain, j'ai décidé de ne plus jamais crier de ma vie. Alors, je ne dis pas que c'est du 100%, mais par contre, de prendre cette décision et de se dire plus jamais je gueule, eh ben, c'est dur, mais qu'est-ce que c'est agréable, on perd vachement moins d'énergie.
Alors moi, je ne crie pas, mais moi, je ne crie pas du tout, mais je suis énervée de nature. C'est-à-dire que je me lève énervée. Donc, j'essaye de ne pas faire de ma vie des combats permanents, de choisir. Je fais des petits choix dans les combats. Donc, et après, moi, j'ai un gros problème de contrôle fric et de contrôle sur absolument tout. Et donc, je m'épuise. Je m'épuise sur des mini-sujets, quoi. Donc, j'ai beaucoup de choses à apprendre, moi, dans le bien-être au travail.
Mais alors, Laure, vous faites un lien avec un sujet sur lequel vous êtes exprimé. On ne va pas revenir sur le cas Pierre Ménès, mais vous avez pris une position très claire sur l'affaire Pierre Ménès chez Canal, où vous aviez exprimé le fait que Canal aurait dû vraiment être beaucoup plus sec sur le sujet. Quel est votre regard, vous, sur toutes ces questions en tant que femme dans les médias? Et c'est aussi pour ça que je voulais parler avec vous, parce que vous aviez vraiment une opinion très, très tranchée, très ferme. J'imagine que ça va bien au-delà de l'affaire Pierre Ménès.
Oui, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vécu de harcèlement ou de situation compliquée au travail. Par contre, j'ai vécu le sexisme au quotidien, depuis que je travaille, mais j'ai été élevée, moi, dans un milieu hyper sexiste où on a toujours considéré la femme comme inférieure. Et donc, en fait, depuis que je suis née, j'ai toujours eu besoin de prouver à ma propre famille que la femme n'est pas inférieure à l'homme.
Mais est-ce que ce côté combattant que vous avez, dont vous parliez avec un gros caractère, ça ne vient pas de là aussi ?
Si, ça vient de là. Ça vient de là, mais du coup, on ne peut pas non plus... on peut pas faire, enfin il faut choisir quoi, on peut pas être énervé tout le temps, mais en tout cas dans le monde du travail, c'est-à-dire que moi j'ai choisi le journalisme financier parce qu'il n'y avait pas de femmes, c'est-à-dire que j'avais fait de manière totalement pragmatique, je me disais où est-ce que je pourrais travailler. Dans la politique il y avait déjà des femmes, dans l'agroalimentaire il y avait déjà un peu de femmes, mais dans la finance il n'y avait personne. Et donc du coup je m'étais dit tiens je vais aller là, comme ça ils seront obligés de me prendre parce que je suis une femme et ça va me permettre d'avancer. Donc j'étais déjà dans une logique de discrimination positive il y a 12 ans, 15 ans, en l'utilisant comme une marche pour ma carrière. Après ça a été compliqué parce que les premières fois où j'étais seule femme journaliste financier dans des conférences, la première fois, les gens me donnaient leur manteau hein, en pensant que j'étais la fille du vestiaire. C'était ça, hein, la femme qui était là, elle était soit pour le vestiaire, soit maquilleuse. Elle ne pouvait pas être autre chose. Mais ça avance. Et sur le cas Pierre Ménès, quand je dis que les directions sont responsables, c'est-à-dire que c'était normal, quoi. C'est-à-dire que c'est aux directions maintenant de dire nous avons changé, nous avons compris, nous considérons que la femme est l'égale de l'homme. Parce que c'est pas naturel, en fait. Hein. C'est pas comme ça que ça se passait. Donc, il faut qu'elle s'exprime. Et pour moi, quand il y a 5 ans, on choisit de ne pas sortir les gens qui posent problème dans une rédaction, c'est qu'on considère que c'est normal. Et donc, on a une responsabilité. Et les grosses boîtes, les banques, tout ça, l'ont bien compris bien avant les médias. Nous, on est très en retard sur cette question.
Mais alors, justement, vous qui commencez, alors, avec tout le respect que je vous dois, vous avez une certaine expérience. Quel conseil vous donneriez à une jeune étudiante en journalisme, en tant que femme ? Si vous deviez, en quelques mots, dire ben voilà, moi, voilà quelques erreurs que j'ai faites, est-ce que tu devrais faire de différent ?
En fait, l'avantage, c'est que le plafond de verre est quand même de plus en plus mince, mais il ne faut à aucun moment se considérer comme différent. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'en tant que femme, on est pareil, on a les mêmes chances, on fait pareil, et on doit être reconnu à égalité pour notre intelligence. À part ça, il faut juste avoir l'envie, quoi. Mais moi, je pense que je suis très optimiste, en fait, sur la question des femmes. Et je pense qu'il y a énormément de combats qui sont gagnés, qu'il y a beaucoup de choses qui sont générationnelles. Donc, je pense qu'une jeune femme qui commence aujourd'hui doit considérer qu'il n'y a pas de plafond de verre et qu'on avance un peu, c'est tout.
Moi, je ne sais pas. Alors, vous, justement, en tant que journaliste, quel regard vous portez sur l'indice d'égalité femmes-hommes ? Parce que j'ai le sentiment que c'est pour la première fois une loi qui fait vraiment bouger les choses concrètement, parce que ça va taper au portefeuille si jamais on est en dessous, je crois, de 78 et qu'on fait rien pendant 2 ans, on va taper sur une amende sur le chiffre d'affaires. Et j'ai l'impression que ça fait... Bah, je crois que la première loi égalité femmes-hommes en salaire, c'est 1974. On voit où on en est encore un peu loin, mais que là, il y a vraiment eu un déclic extrêmement fort. Alors, est-ce que ça vient de MeToo, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que les choses s'accélèrent.
Le problème, c'est que sur cette loi, tout le monde a gagné, quoi. Tout le monde est super bon chez soi en salaire, et je fais confiance aux directions financières, aux directions RSE dans les entreprises pour trouver le moyen de toute façon être gagnant et la manière de le calculer. Ce qui change véritablement dans les entreprises, c'est la volonté des femmes de ne plus du tout se faire avoir. C'est-à-dire que la génération qui a 30 ans aujourd'hui ne peut pas accepter et est prête à démissionner parce qu'elle gagne moins. Elle ne peut plus l'accepter, c'est-à-dire que c'est presque physique, quoi. Elle ne peut plus. Donc, c'est ça qui change. Vous voulez des femmes, mais vous êtes obligés de changer votre manière de fonctionner. C'est presque l'attractivité des talents qui fait changer les choses, plus que la loi. La loi, franchement, vous bidouillez votre truc comptable et c'est bon, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, quoi. Moi, je pense que la loi, elle vient confirmer une vraie tendance au sein des boîtes.
Alors c'est marrant parce qu'une de mes dernières questions, c'était sur votre optimisme au regard de cette question égalité femmes-hommes, mais vous avez répondu, vous êtes plutôt très optimiste.
Ouais. C'est peut-être parce que j'ai des filles, hein, j'en sais rien, mais je suis persuadée que la génération qui arrive ne fait plus de concessions, et celle qui arrive derrière a été élevée exactement à égalité avec les petits garçons. Pour moi, n'y a pas vraiment de sujet. C'est-à-dire que ça avance dans le bon sens.
Mais c'est un truc que je rappelais souvent. Moi, je fais partie d'une génération où c'était encore l'exception pour les mamans de travailler. Moi, je fais partie de la première génération, donc je vais avoir 51 ans bientôt. Je fais partie de la première génération où c'est une évidence pour une femme de travailler, mais malgré tout, par rapport à la génération d'avant, ça ne l'était pas. Et là, toute la génération, ben, la vôtre, Laure, et encore plus celle de nos enfants, l'éducation aura joué un rôle de dingue parce que, ben, oui, les mamans travaillent, et c'est comme ça. Alors, on arrive vers la fin de l'interview. L'avant-dernière question, c'est une question un peu généraliste, mais que je pose souvent aux gens. Quel regard vous portez sur votre parcours? Quelles sont les choses dont vous êtes fiers? Vous dites ça quand même, ça envoie de la bûchette.
Alors moi, je fais partie des gens qui ont tout écrit à l'avance. C'est-à-dire que quand j'avais 5 ans, je savais exactement où j'allais. Il n'y avait pas beaucoup d'ambition de la part de ma famille ni du système scolaire pour moi, mais moi, j'avais beaucoup d'ambition pour moi-même. Et ça m'a suffi à avancer. Donc j'avais des buts comme ça, travailler dans une rédaction, interviewer un premier ministre. J'avais toute une liste.
Vous vouliez être journaliste à 5 ans?
Ouais.
Sérieux?
Ah, j'ai toujours voulu être journaliste, ouais.
Ça me fascine.
Oui, oui, j'ai jamais eu de question de... Alors que j'étais très, très mauvaise à l'école. Hein. J'étais très mauvaise à l'école et j'ai pas eu mon brevet. Enfin, j'avais toujours cette ambition parce que je voulais qu'on m'écoute, quoi. Je voulais qu'on m'écoute. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas reporter et que je suis animatrice parce que, en fait, moi, je veux qu'on m'écoute. Je veux bien faire parler les autres, mais je veux aussi qu'on m'écoute. Donc, du coup, c'est plutôt vers ce type de carrière. J'ai pas encore toujours mon émission à mon nom, ça, c'est encore mon but, donc j'ai pas complètement terminé. J'avais interviewé Michel Rocard, j'avais 25 ans. Pour moi, c'était déjà une réussite de dingue. Hein. Aujourd'hui, l'indépendance financière, tout ça, pour moi, est une réussite. Je m'assume, je m'occupe de ma famille. Voilà, pour moi, c'est une réussite importante.
Alors, il y a une question que j'ai sautée parce que je la trouvais un peu gnangnan quand je l'ai écrite, mais au regard de ce que vous êtes en train de dire, je suis obligé de vous la poser. Vous vous voyez où dans 10 ans? La Laure Clausier dans 10 ans, c'est qui?
Je ne sais pas. Mais je ne sais pas parce que je ne sais pas. Là, comme j'ai avancé un peu comme je voulais, je ne sais pas trop où je vais demain. Moi, j'aime écrire, j'aime raconter des histoires. Je me vois plutôt partir dans l'écriture plutôt que d'animer ma singer, ce qui à un moment donné pouvait être mon but. Mais là, je suis plutôt... Je pense que je vais écrire à un moment donné, mais il me faudra des sous parce que ça coûte cher. Donc du coup, j'ai pas encore. Mais je me vois pas. Par exemple, je me vois pas diriger une rédaction. Je ne serais pas bonne dans cet exercice et je suis trop solo pour ça. Mais je pense que je finirai par écrire.
Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, on arrive à la dernière question et comme pour tous les invités, je vous ai demandé de travailler. Et alors, on est en visio, c'est très drôle parce que je vois le désespoir dans vos yeux. Je vous ai demandé de choisir un mantra ou une citation qui vous parle. Et pourquoi vous avez fait ce choix-là?
Eh bien, donc, j'ai tapé « citation intéressante » sur Google et je n'ai rien trouvé parce que je ne sais pas quoi répondre à cette question. Et ce n'est pas la première fois qu'on me demande. Et moi, je n'ai pas de citation ou de gens qu'il faut que je suive à la lettre. J'ai toujours été retort à l'autorité. Donc, l'idée de suivre un truc déjà prédéfini, ben, je ne sais pas. Donc... je ne sais pas, à part quand Beyoncé dit qu'il dirige le monde, les femmes, bah je ne sais pas quoi, je sais pas quoi dire. Quoi.
Mais j'adore, Laure, vous savez, la semaine dernière, je vais de surprise en surprise avec Happy Work sur mes interviews. La semaine dernière, le PDG de Superprof m'a quand même cité Jean-Claude Duss. Et là, c'est la première fois qu'on me dit, ben non, moi, je n'ai pas de citation. Et je trouve ça non seulement honnête, et fondamentalement, on n'a pas forcément besoin d'avoir des mantras et des citations. Donc, il n'y a absolument aucun problème.
Mais ça, c'est mon côté combatif, c'est-à-dire que moi, je vais contre, je ne vais pas avec. Ouais, c'est ça.
Je crois qu'on l'a bien compris. Laure, je vous remercie mille fois de m'avoir accordé ce temps d'interview. C'était extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous en êtes consciente, mais je trouve que c'est important que vous preniez la parole parce que je pense qu'il y a plein de jeunes femmes qui veulent être journalistes, même des hommes qui vont devenir journalistes, et d'avoir conscience, d'avoir une prise de parole d'une femme. J'aime pas ce mot « jeune femme », d'une femme...
Je suis un peu une vieille peau maintenant, hein. C'est fini, hein. les jeunes femmes, c'est derrière moi. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport, dans le journalisme français, les femmes qui sont très très présentes ont quand même un certain âge, on les voit depuis 30 ans à l'antenne, donc je trouve ça très rafraîchissant d'avoir des voix comme la vôtre qui arrivent, qui sont des voix qui sont tout à l'inverse des archétypes féminins qu'on peut imaginer dans les médias d'il y a 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez des speakerines à l'époque. Donc voilà, donc merci beaucoup pour ces mots, merci beaucoup pour ces moments. Merci beaucoup de ne pas avoir travaillé à trouver une citation et un mantra. Je vous souhaite une excellente journée et bonne continuation. Alors au revoir.
Merci Gaël, au revoir.